quand je suis dans le train ou que je suis à vélo, que je vois le paysage défiler, je commence à rêver et je me dis waouh, on imagine des choses, hein, on imagine des histoires. J'aime bien retranscrire ça en graphisme, j'aime bien permettre aux gens cette balade mentale, quoi. Tout naît de l'imaginaire, c'est l'arme la plus puissante, quoi, qu'on ait pour raconter des histoires. Ce qui est la clé de tout ça, un mec qui raconte des histoires. Et l'imaginaire, il joue beaucoup, ouais. Je m'appelle Perrin Remonté, j'ai 28 ans et j'habite à Brest où je mène une activité de cartographe indépendant. Le travail que je fais en carte, c'est explorer l'intersection entre la science, la poésie, la géographie et les lieux. J'essaie de trouver cette espèce de superposition un peu magique qui se produit, qui sont plutôt orientées vers la géographie physique, la mer, les forêts, les rivières, ces choses-là qui sont cruciales aujourd'hui dans nos écosystèmes. Je suis un grand rêveur. À l'école, je passais mon temps à dessiner dans les marges, dans les carnets, partout. Mais bon, finalement, je suis content d'avoir, en dépit des mots dans le carnet ou des choses comme ça, d'avoir continué à dessiner un peu partout, parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose, quoi. C'est la rêverie éveillée qui donne lieu à ces idées-là. Ça, c'est aussi le rôle de l'ennui, je pense. Quand j'étais petit, j'habitais dans un petit village d'Ille-et-Vilaine. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on n'avait pas encore de... j'ai l'impression d'être très vieux en disant ça, mais on n'avait pas encore de smartphone, et on n'avait pas TikTok. Donc on était amené à s'ennuyer. Je me souviens, je sais pas combien de fois, je m'ennuyais tout le temps. Je voulais voir mes parents en disant que je m'ennuyais, quoi. Je voulais jouer à l'ordinateur, je voulais jouer à SimCity 4. Justement pour imaginer des villes, pour imaginer des trucs, quoi. Mais sur ce temps-là qu'on était nombreux à avoir, je pense, à rien faire... On prenait une feuille, on commençait à dessiner, on commençait à inventer une histoire avec des personnages, et voilà, tout naît de l'imaginaire. J'aime bien travailler sur les éléments, le sol, les forêts, l'eau. Bon, chacun a sa préférence, hein. Je connais des cartographes qui sont fans de géopolitique, hein, qui vont montrer un peu l'inverse, c'est très loin du sol, hein, la géopolitique. Il y en a qui vont plutôt aimer les données socio-démographiques, qui vont parler des résidences secondaires en Bretagne, par exemple. Moi, j'aime bien ce truc-là, vachement proche du sol, hein, ce truc qui dit ça. On a tous dans le cœur un vieux paysage, quoi. Et ce vieux paysage, il est fait de ces éléments. Et d'ailleurs, c'est un courant de la géographie, hein, qui approche la chose par le paysage. Et moi, je m'identifie à ça. Et voilà, une fois qu'on a décrit le paysage, qu'on a décrit les forêts, les rivières, la température et l'eau... Tout le reste se bâtit dessus. Hein. Alors, faut pas être déterministe, hein. Tout n'est pas fonction du paysage et des ressources à disposition. Mais il y a quelque chose d'élémentaire et de primitif qui me parle beaucoup, personnellement. Il y a une carte que j'ai faite qui me fait rire encore. C'est ça l'idée, en fait, c'est toujours s'amuser. Hein. C'est vraiment... C'est très ludique, j'espère. Et si la France devenait une hydrocratie ? Donc, une hydrocratie, qu'est-ce que c'est ? En français, on a le mot thalassocratie, qui est un État qui détient son pouvoir de la maîtrise des mers. L'hydrocratie, c'est la même chose, mais un État qui détient sa puissance de la maîtrise des eaux. Et donc là, j'ai créé une France métropolitaine où les régions sont non plus définies par des critères assez arbitraires et des lignes un petit peu artificielles, mais... à la place des régions qui sont basées sur les bassins versants. Le bassin versant, c'est la surface dans laquelle les eaux de pluie vont converger vers les mêmes ruisseaux qui vont former les rivières d'un même ensemble. Donc on a le bassin de la Loire, de la Seine, du Rhône. Donc ça donne la Ligérie, la Sécanie, la Rhodanie. Ça donne des régions naturelles comme ça qui, ont vachement plus de sens que les régions administratives parce qu'on remarque au cours de l'histoire, les empires ont souvent suivi ces lignes de partage des eaux. parce qu'elles correspondent en fait à des crêtes montagneuses qui arrêtaient les peuplements, qui faisaient une sorte de frontière en fait naturelle. Et donc cette carte, elle invite aussi à se mettre un petit peu dans cette ambiance de fiction semi-utopique, semi-fictive, où là on a des cartes qui explorent plein de scénarios, comme si tous les glaciers fondaient, à quoi la France ressemblerait. Ou alors les massifs forestiers, là c'est pareil, les massifs forestiers deviennent des massifs montagneux. Pour faire ces cartes, un peintre va utiliser des pigments comme matière première. Un sculpteur de l'argile ou du métal, moi j'utilise la donnée, c'est vraiment mon médium quoi. Et c'est toujours issu d'une espèce de paquet de 1 et de 0, de coordonnées vectorielles. Ces données, elles sont sous forme géographique et vont être projetées dans l'espace et vont avoir des points, des coordonnées de latitude et longitude. Donc par exemple, pour les bassins versants, c'est des polygones, hein, tout simplement. Pour la densité de population, c'est des valeurs qui sont associées à un pixel. C'est toujours des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Hein. De nombreuses personnes font ce cursus de géographie où on nous apprend à récupérer ces données, correctement les interpréter. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec la donnée. Hein. Moi, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est la licence créative, on va dire. J'avertis les gens que c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est légèrement scientifique et carrément poétique. C'est ce que je dis pour me dédouaner. Hein. Parce que finalement, ces données sont un peu stockées, elles sont pas très mises en valeur, parce que nous, on nous apprend à faire des rapports pour des instituts. Ça sort pas de certaines boucles un peu de spécialistes. Et ce que j'aime bien, c'est apporter ça aux gens, quoi. Parce que c'est de la vulgarisation finalement. C'est un petit peu comme montrer une belle photo de l'espace, quoi, qui est lointaine, inaccessible. Nous, on va prendre un truc qui est juste là et on va le mettre en forme pour que ça soit un petit peu beau, quoi. Amener un petit peu de beauté, quoi, dans la donnée qui est pas forcément super sexy au début, quand même. On va superposer, on va croiser. Et de ce croisement, par exemple, croisement entre la population, la forêt, la rivière, on peut dériver de nouvelles choses, on peut créer des sortes de chimères de données, quoi, et ça peut donner des choses uniques et un peu créatives, pas forcément utiles pour le débat scientifique, mais toujours dans ce but d'interpeller les gens, parce que les données, c'est un peu l'ADN des lieux, hein, finalement. Un lieu, il est défini par plein de liens, de relations, d'interconnexions qui sont mesurées et quantifiées par les données, et donc nous, on va voilà, mettre ça en forme, mettre ça en chair, quoi. Mon parcours, à moi, il était à la base très orienté vers la science géographique et la géomatique. Hein. C'est un domaine où on utilise des données pour faire des analyses. C'est très scientifique, c'est très cartésien. Et on nous apprend pas et on nous demande pas de faire des choses qui sont émouvantes, qui sont sensorielles, sensibles ou je ne sais quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est une transgression en partant de ce monde de la donnée, de l'analyse. Vers le monde du sensible et de la carte qui peut toucher les gens, qui peut provoquer une réaction sensible, quoi. Les gens, ça touche à leur enfance, ça touche à leur passé, leurs souvenirs, leur territoire, leur quotidien. C'est proposer ce glissement, en fait, re-remplir les cartes qui sont aujourd'hui très vides, qui sont aujourd'hui très fonctionnelles et utilitaristes. Nous, on a fait de ces cartes des choses vivantes, hein. Vous verrez en feuilletant le livre, ça saute aux yeux, ça vous attaque presque. Elles sont très très remplies de plein de créatures, plein de plantes. C'est l'éditeur qui disait ça. Elles sont contaminées par des éléments vivants. Hein. Elles sont pas stériles, elles sont l'opposé. C'est des espèces de boîtes de pétri, quoi, ces cartes. À l'image de ce que sont les lieux vraiment, il faut s'en rendre compte pour les laisser prospérer. Je suis allé vers des idées comme les montagnes humaines et si la population devenait topographie. Donc là, pareil, on va prendre la donnée de démographie, la donnée humaine, hein, de peuplement, de densité de population, et on va visuellement la transformer en montagne. Ça donne une carte où Paris, l'île de France, devient une espèce d'énorme pic montagneux enneigé de 50 000 mètres, parce que je crois qu'il y a 50 000 personnes au kilomètre carré, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Et à l'inverse, on a des isthmes, on a des détroits, on a des mers, on a la grande mer de la vacuité, c'est la diagonale du vide. Et donc ça, ce glissement de la donnée vers la topographie, ce qui va plus parler aux gens, hein, la topographie, c'est quelque chose qu'on est habitué à voir, qui est visuel, qui est évident. elle va permettre de réinterpréter ces données, de la rendre concrète et de mettre au cœur du débat des enjeux que sont le dépeuplement des campagnes, la métropolisation, la concentration des services, des biens, des richesses. La Médiocéanée, ça c'est une autre carte qui est l'idée d'inverser les reliefs. Inverser les reliefs, ça veut dire que la bathymétrie, donc la profondeur sous-marine, va se transformer en altimétrie, hein, va devenir montagne, et à l'inverse, les zones qui sont émergées vont devenir immergées, donc ça va devenir des mers. Et donc cette Médiocéanée, c'est la Méditerranée, parce que Méditerranée, ça veut dire la terre du milieu. Donc là, la Médiocéanée, ça veut dire l'océan du milieu. Hein. J'ai juste fait une inversion du terme pour aller jusqu'au bout. Et donc dans cette espèce d'île continent, il faut dire que la Méditerranée elle s'y prête bien parce que c'est une mer fermée, donc quand on l'inverse ça fait une île presque fermée. Cette île continent elle va proposer des reliefs dingues parce que la Méditerranée on s'en rend pas compte mais elle descend à je crois à 4000 mètres, peut-être même 5000, je sais plus exactement. Et donc ça en inversant ça fait des pics gigantesques, c'est ce que j'ai dessiné sur la carte, ça créerait des calottes glaciaires que j'ai appelées calottes de Hadès, calottes de Pluton, des noms qui convoquent un peu la mythologie grecque, des enfers, des endroits inhospitaliers. Et puis au sud, j'ai des noms plus islamiques ou égyptiens ou phéniciens qui viennent du Maghreb, qui viennent des cultures anciennes, des berbères. On a aussi quelques noms écologiques comme la Posidonie, cette herbe méditerranéenne qu'on retrouve à faible profondeur. Des termes des peuples turcs, hittites, voilà, toutes ces choses-là qui passent de l'histoire réelle, avérée des peuples, à une toponymie fictive. C'est comme une espèce de manière de ressusciter ces fantômes quoi, dans une carte un peu fantastique. On a perdu la conscience des lieux, on a abîmé le sentiment géographique. On vit en Auvergne sans connaître les volcans, on vit dans le bocage et dans les campagnes sans jardiner, sans chevaucher, sans se promener, hein, qui dans le temps était très importante. Hein. On avait en tête où pousse quoi, les précipitations, les saisons. Alors bien sûr, certains ont gardé ce savoir, heureusement, mais à mesure qu'on passe de plus de temps, et ça c'est les chiffres le montrent, qu'on passe de plus en plus de temps seul, cette conscience elle s'effrite et c'est pas anodin parce que il faut connaître le lieu pour pouvoir l'aimer et c'est en l'aimant qu'on va le protéger. Donc il y a une suite logique comme ça qui se fait et que moi j'essaie de provoquer par la carte. C'est pour qu'au quotidien on renoue ce lien, on renoue cette espèce de conscience qu'on a perdue. Il y a plusieurs choses, il y a la tertiarisation de la société, il y a le manque de temps qu'on a consacré à ce loisir. On a perdu ce lien affectif qui nous lie avec le territoire par le travail. Moins de gens travaillent dans les champs, travaillent en extérieur. On a aussi abîmé ce sentiment géographique avec la facilitation des déplacements. C'est incroyable de pouvoir se déplacer en avion à l'autre bout du monde de manière relativement abordable. Mais un effet parallèle de ça, qui est néfaste quand même, c'est qu'on a la même quantité de temps, mais on a beaucoup plus de facilité à aller très loin. Donc ça divise l'attention qu'on peut passer aux soins de ces choses qui nous entourent, hein, des arbres de notre village, des rivières de notre département. Et donc on va abîmer ce lien, on va le dissoudre en fait. Et pour moi, il est urgent de resserrer ce périmètre d'exploration, que ça rentre un peu dans l'ordre des choses, quoi. D'abord, on connaît l'endroit où on vit, on le connaît, on l'aime et on le protège. Et après, si on a le temps, bonus, on peut peut-être aller plus loin. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en vivant à Brest. Je me balade qu'à vélo et quand j'ai vendu ma voiture, je me suis dit que mince, je pourrais plus aller à 300 km sur une journée pour faire des photos de cet endroit. Et finalement, maintenant, je vais à 20 km autour de chez moi. Je sais pas combien de kilomètres je fais dans la journée, mais mes journées sont aussi remplies. Il y a plein de trucs à prendre en photo, il y a plein de choses. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que les moyens de transport sont complètement biaisés notre perception de l'espace et de ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, quoi. Donc, sans parler de l'avion, là, c'est un niveau, une magnitude supérieure.
C'était la cartographie poétique, premier épisode, avec Perrin Remonté. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.